Bonsoir à tous. Merci d'être là en aussi grand nombre. Habituellement, j'ouvre toujours la Bible au départ quand je fais une présentation, mais puisque ce soir nous allons voir plusieurs versets, particulièrement avec l'aide du PowerPoint, je vais limiter le temps que je vais prendre dans la parole, parce qu'on a beaucoup de choses à voir de toute façon au sujet de ce thème biblique qui est la prophétie. Ma démarche, elle a été très, très simple, qui est accessible à vous tous aussi. C'est simplement que j'ai voulu revoir à travers la révélation progressive de Dieu ce que la parole de Dieu nous enseigne sur la prophétie et sur le don de prophétie en particulier. C'est un sujet qui est très, très vaste. Je n'ai passé que peu de temps dans l'Ancien Testament parce que je pense qu'on peut déjà avoir une bonne idée dans l'ensemble. Mais je me suis préoccupé davantage, bien sûr, des textes dans le Nouveau Testament, les Évangiles, ensuite les Actes et puis finalement les Épîtres, pour essayer de tirer quel serait l'enseignement qu'on devrait retenir au niveau de ce don de prophétie dans l'Église aujourd'hui. Donc, voilà la démarche que je vous propose. C'est donc d'aborder d'une façon, dans la révélation progressive de Dieu, la façon dont se développe ce don de la prophétie. L'Ancien Testament, il est très, très vaste et nous savons que le prophète était un porte-parole de Dieu, donc qui devait communiquer la parole de Dieu particulièrement à son peuple. Bien sûr qu'il y avait un aspect de sa prophétie qui était d'annoncer les choses à venir, que ce soit à court, à moyen ou à long terme, ce qui fait qu'il y a des prophéties sur l'avenir qui, du point de vue du temps, sont passées pour nous, parce qu'elles sont déjà accomplies. Mais le prophète ne faisait pas dans l'Ancien Testament qu'annoncer les choses à venir. Je vais vous présenter quelques-uns de leur ministère très, très brièvement, en fait, d'aspects de leur ministère prophétique. C'était d'enseigner le peuple de Dieu. Donc, il y a plusieurs versets qui soutiennent cet aspect. Encourager, bien sûr, aussi, parfois reprendre, et je dirais même souvent reprendre, en particulier le peuple d'Israël pour sa désobéissance, et aussi annoncer un jugement. Donc, ça, c'est ce qu'on pourrait dire les cinq aspects principaux du ministère d'un prophète dans l'Ancien Testament. C'est le Seigneur qui leur donnait le message à transmettre, et c'est pourquoi plus de 250 fois, je pense, il s'exprime en disant, par exemple, « Oracle de Yahvé ou de l'Éternel, c'est une parole que Dieu nous donne pour le peuple. » Et Dieu, dans sa sagesse, dans sa toute-puissance, pouvait même utiliser des faux prophètes pour parler. Il pouvait utiliser des hommes comme Balaam pour s'adresser à son peuple. Mais toujours, c'était dans une optique de communication de la parole de Dieu à l'égard en particulier d'Israël. Donc, c'est simplement comme ça que je résumerai la prophétie dans l'Ancien Testament. Et on passe dans les Évangiles, parce que je vais surtout passer du temps dans les Actes des Apôtres et dans les Épîtres. Dans les Évangiles, qui est au centre de la prophétie? C'est notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. C'est le prophète par excellence, celui qui était annoncé déjà dans Deutéronome 18. Vous lirez ce passage où il y a un prophète, le prophète annoncé. Jean-Baptiste avait été questionné à savoir s'il était ce prophète. On lui a dit, es-tu le prophète, pas un des prophètes, le prophète qui devait venir. Et c'est une référence à Deutéronome 18. Et Jean-Baptiste a répondu, bien sûr, que non, parce que c'était le Seigneur Jésus qui était ce prophète. René Pache a dit ceci pour résumer le ministère prophétique de Christ. C'est sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu que le Seigneur exhortait, avertissait, consolait ou dévoilait l'avenir. Et d'ailleurs, ce ministère prophétique du Seigneur, il est certifié dans ce passage de l'Évangile de Luc qui nous dit « Jésus le Nazaréen qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple ». Maintenant, toujours dans les Évangiles, quand nous arrivons au texte de Luc, c'est le chapitre 2, les versets 36 à 38, il est question de cette femme de la tribu d'Azar qui s'appelait Anne et qui est décrite par Luc dans ce passage, chapitre 2, versets 36 à 38, comme étant une prophétesse. Donc, notre défi à nous, Quand nous voulons comprendre le don prophétique, c'est de quelle nature était le ministère prophétique de cette femme, Anne? Elle était prophétesse, donc c'est clair qu'elle exerçait le don prophétique. Mais dans quelle mesure, selon quel aspect de la prophétie? On a vu tout à l'heure, avec l'Ancien Testament, qu'il y avait au moins 5 aspects différents du ministère prophétique, et on est en droit de se demander, c'était quoi pour Anne? Et comment on fait pour trouver cela? C'est pas nos préférences, c'est pas notre imagination, c'est le contexte, tout simplement. Le contexte lui-même, et parfois, il y a des contextes assez obscurs qui ne nous permettent pas d'établir avec certitude de quoi il s'agit. Mais par contre, dans le cas de Anne, c'est assez clair que le contexte indique de quelle nature était ce ministère prophétique lorsqu'il est dit ceci de elle. Elle louait le Seigneur et parlait de lui, donc du Seigneur, à tous ceux qui, à Jérusalem, attendaient la délivrance. Donc, c'était quoi le ministère prophétique de Anne? C'était de rendre témoignage. Et l'Écriture nous confirme qu'il y a cet aspect de prophétiser. Le problème, c'est que nous avons déjà dans nos têtes beaucoup de préconceptions par rapport à la prophétie. Pour nous, prophétie, c'est un peu spécial, c'est se mettre à parler tout d'un coup, saisi par l'Esprit de Dieu, où on dit des choses. C'est vrai parfois, mais pas tout le temps. Et on doit admettre qu'il y a cet aspect du don prophétique qui est celui de communiquer la parole de Dieu d'une façon ou d'une autre, et dans le contexte ici, c'est de rendre témoignage. Elle parlait de Jésus et de la délivrance qui était liée à sa venue, donc aux gens de Jérusalem. Elle rendait témoignage, simplement. Donc, dans le contexte, voilà jusqu'où je peux aller. C'est un témoignage à la personne du Seigneur et à son œuvre de rédemption. Et vous allez voir que cet aspect du don prophétique, il revient ailleurs dans le Nouveau Testament. On va en parler un petit peu plus tard. Il y a un autre point intéressant, puis ça va être le dernier. Vous voyez que c'est assez bref, le don prophétique dans les évangiles. En fait, ce ne sont pas tous les passages, sans exception. Il y a beaucoup de textes qui disent, par exemple, dans les évangiles, que la prophétie d'un tel et tel prophète s'est accompli, surtout dans l'Évangile selon Matthieu. Mais on comprend très bien de quoi il s'agit. C'était les prophètes de l'Ancien Testament qui trouvent maintenant leur accomplissement dans le Nouveau. Voilà pourquoi je les laisse de côté. Mais ce qui était intéressant, outre le Seigneur et cette femme, il y a aussi les faux prophètes. Il y a plusieurs faux prophètes dans les Évangiles, et c'est ce que le Seigneur Jésus déclare sans détour dans ce passage. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, et portez attention à ce qui est dit. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom et n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Ce texte-là me fait trembler parce que j'ai l'impression de vivre à l'époque où le Seigneur est en train de s'adresser à nous d'une manière particulière, où c'est plein de gens qui disent, qui prophétisent au nom du Seigneur, qui font des miracles, qui chassent des démons. En fait, c'est peut-être les trois activités préférées d'une très grande partie du monde évangélique moderne. Et regardez ce que le Seigneur dit, « Vous ai jamais connu. » Ça fait peur, ça. Ça montre quelque part que le don prophétique de chasser des démons, de faire des miracles, n'est pas forcément de Dieu et ne vient pas forcément de lui. Ça devrait déjà nous mettre en garde contre beaucoup de choses qui se passent dans notre monde d'aujourd'hui. Maintenant, je termine avec les évangiles et je passe directement dans les Actes des apôtres. Et là, permettez-moi tout d'abord de vous rappeler la nature de ce livre, les Actes des apôtres. C'est un livre historique, c'est un livre d'histoire. Il raconte, et je parle de Luc, il raconte l'histoire de l'Église dans environ ses 30 premières années. Donc, c'est un livre historique, un narratif qui nous dit comment les choses se sont passées, mais qui ne nous dit pas forcément comment on doit faire les choses, mais qui nous présente de manière tout à fait historique et chronologique le récit des 30 premières années de l'histoire de l'Église. Donc, a priori, ce n'est pas un livre normatif, c'est-à-dire nous ne pouvons pas nous fonder uniquement sur le livre des Actes des Apôtres pour établir la saine doctrine que nous devons croire et ce que nous devons faire lié à ce que nous croyons, bien sûr. C'est dans les Épîtres que nous allons trouver cela, mais par contre, déjà les Actes nous lancent sur des pistes à suivre concernant le don prophétique et ses différents aspects. Il y a plusieurs passages, le premier est dans Acte 2. Et il arrivera au dernier jour, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles y prophétiseront, et vos jeunes hommes verront des visions, et vos vieillards songeront en songe, et sur mes serviteurs et sur mes servantes en ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Vous savez que c'est une prophétie du prophète Joël de l'Ancien Testament. Eh bien, cette prophétie-là ne s'est pas totalement accomplie au moment où Pierre, par exemple, va l'utiliser dans son discours évangélique. Et Luc n'est pas en train de nous dire que toute la prophétie de Joël s'est réalisée à cette occasion-là. Il y a plusieurs éléments de cette même prophétie qui attendent toujours leur accomplissement. Il y a une dimension qu'on n'a jamais vue encore, qui n'est pas accomplie de cette prophétie. Mais Luc, il applique l'accomplissement partiel de Joël à un phénomène en particulier. Quel est ce phénomène? Pourquoi il cite cela? C'est pour appuyer l'événement qui vient de se produire dans la venue du Saint-Esprit ou lors de la venue du Saint-Esprit pendant la Pentecôte. Donc, c'est dans ce contexte-là, avec la descente du Saint-Esprit sur les apôtres qui parlent en langue et qui annoncent, et puis le texte dit qu'ils parlent des choses merveilleuses de Dieu, c'est dans ce contexte-là que Luc applique la prophétie de Joël à la réalisation de ce qui vient de se passer à la Pentecôte. Donc, dans ce contexte, il me semble assez clair que le ministère prophétique en question, c'est de rendre témoignage. Parce que c'est exactement ce que font les apôtres. Comment s'est réalisée la prophétie de Joël? Elle s'est réalisée lorsque le Saint-Esprit est venu sur les apôtres et que dans des langues compréhensibles, pas du charabia, pas de la glossolalie, dans les langues compréhensibles, ils ont annoncé ou prêché, proclamé les merveilles de Dieu ou les choses, les œuvres magnifiques de Dieu. Vous voyez ça dans Actes 2, verset 11. Donc, le contexte, pas mon imagination, pas ce que j'aimerais voir dans le texte, mais le contexte me dit que le ministère prophétique que nous voyons ici est simplement, encore une fois, de rendre témoignage. Prochain passage des Actes des Apôtres, c'est au chapitre 11, les versets 27 et 28. Or, en ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche, et l'un d'entre eux, nommé Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'une grande famine aurait lieu dans toute la terre habitée, laquelle aussi eut lieu sous Claude. Ça, c'est vraiment l'un des rares passages dans le Nouveau Testament qui parle du don prophétique qui s'agit de, en fait, qui se décrit comme étant annoncer les choses à venir. C'est très rare qu'on a cet aspect-là. Bien sûr, je mets de côté les discours prophétiques de Christ, qui sont super abondants dans les évangiles. Je laisse de côté aussi toute la prophétie à travers la rédaction des apôtres. Je laisse même de côté le livre de l'Apocalypse, qui est un livre qui annonce l'avenir. Mais en dehors de ce que Jésus a enseigné dans ses discours prophétiques, et en dehors de ce que les apôtres ont écrit au sujet des choses à venir, ce don-là, il est très rare. Très, très, très rare. Et une seule personne est mentionnée comme ayant ce don dans le Nouveau Testament, et en plus, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, c'est ce fameux Agabus qui est mentionné ici. Franchement, on ne sait pas si les autres prophètes qui ont accompagné, parce qu'ils n'étaient pas tout seuls, on le voit dans le texte, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont aussi prophétisé l'avenir? J'en doute beaucoup. Parce que Agabus est spécifiquement mentionné par son nom comme ayant exercé cet aspect du ministère prophétique et ça va revenir ailleurs aussi. Donc deux fois dans le livre des Actes et c'est toujours le même gars, c'est toujours Agabus. Les autres prophètes, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils ont fait exactement. Peut-être qu'ils ont eu un ministère semblable, mais c'est assez douteux. Mais de toute façon, celle d'Agabus, l'intervention d'Agabus était exceptionnelle, vraiment particulière. Et remarquez bien, si vous lisez le contexte, que sa prophétie, elle était parfaite, pas partielle. complète, elle était juste, elle s'est accomplie, et d'ailleurs les croyants ont bien réagi suite à la prophétie d'Agabus, parce qu'ils se sont sentis concernés par les besoins des chrétiens qui étaient touchés par une famine qui était annoncée ici, et ce qui les a amenés dans un acte de communion qui était concret. Donc c'était probablement même le but même de cette prophétie-là. Donc, cet aspect d'annoncer des choses à venir ici, il est très rare et il est uniquement lié à la personne d'Agabus. On n'a aucun autre exemple dans le Nouveau Testament, hormis Jésus et les apôtres dans leurs discours ou écrits prophétiques. Donc, c'est clair que l'aspect prophétique d'annoncer des choses à venir n'est pas du tout normatif et ne peut se produire qu'à l'occasion. Et à mon sens, c'est tellement rare et ça arrive seulement dans les Actes des apôtres, ce qui nous indique qu'on ne devrait jamais s'attendre à ce que ce don soit encore exercé aujourd'hui. C'est tout à fait unique, il n'y a rien qui nous dit de poursuivre un tel aspect de don de prophétie. Prochain texte, c'est Actes 13, le verset 1 qui nous dit ceci. Ça, c'est toute une assemblée. Il y avait à Antioche, dans l'assemblée qui était là, des prophètes et des docteurs, et Barnabas et Siméon appelé Niger, et Lucius le Cyrénéen, et Manahen, qui avaient été nourris avec Hérode le Tétrarque, et Saul, qui est l'apôtre Paul. Ici, l'aspect particulier du ministère des prophètes, vous voyez, prophètes et docteurs, ben, leur ministère particulier n'est pas identifié clairement, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais par le fait que prophète est associé à docteur, vous voyez, prophète et docteur, et que ce soit mis ensemble, bien ça semble indiquer que ce sont des prophètes qui, comme les docteurs, exerçaient un certain rôle dans l'enseignement, donc dans la communication de la parole de Dieu, en accord avec ce que les docteurs, eux, enseignaient et expliquaient. Probablement que la différence est la suivante, c'est que le prophète, il exhorte, il édifie, il console, il encourage, alors que le docteur, lui, enseigne et explique la parole de Dieu. Mais tous les deux ministères, quand ils sont associés comme ça de très près, ils ont pour but de proclamer la parole de Dieu dans une forme ou l'autre d'enseignement. Je sais pas si je pourrais dire ainsi, mais peut-être que dans ce groupe-là, je mettrais Barnabas avec les prophètes et Saul avec les docteurs. En tenant compte de ce qu'ils ont fait dans leur ministère et à ce que les Actes des apôtres nous racontent, ils semblent bien collés à cet aspect-là à chacun des deux que je viens de mentionner. Donc, pour résumer, le don de prophétiser qu'on trouve à Antioche, c'était d'exhorter avec la parole de Dieu et même au-delà, d'enseigner avec les docteurs. Mais prophétiser, exhorter, encourager, édifier, consoler, nous allons voir cela un petit peu plus en détail plus tard. Un autre texte dans les Actes, au chapitre 15, le verset 32. « Et Judas et Silas, qui étaient eux aussi étaient prophètes, exhortèrent les frères par plusieurs discours et les fortifièrent. » Donc, le passage ici, il est super clair. Ça nous indique en quoi consistait le ministère prophétique de Judas et de Silas. C'était tout simplement d'exhorter. Je pense que c'est très, très clair ici, d'exhorter avec la parole de Dieu, de fortifier, de consoler, d'encourager. Dans le texte, si vous allez lire le contexte plus large, parce que j'ai pas le temps vraiment, c'est un assez bon sprint, mais si vous allez dans le contexte un peu plus large de ce passage-là, vous allez voir que Paul et Barnabas sont mentionnés tout de suite après dans le contexte même. Et le fait qu'ils soient liés de très près aux apôtres Paul et Barnabas, ça démontre clairement que leurs exhortations devaient être en accord avec l'enseignement des apôtres. Et ça, c'est un point continu à travers tout le don prophétique du Nouveau Testament. L'exhortation, l'encouragement, la consolation, l'édification communiquée par les prophètes doit s'appuyer sur la doctrine des apôtres, doit s'appuyer sur l'enseignement des apôtres. Vous pouvez être certain que deux gars qui exercent un ministère de prophétie avec Paul et Barnabas pas loin, que s'ils disent n'importe quoi, les apôtres vont arriver, vont corriger la situation. Donc, ils devaient s'assurer de dire des choses conformes à la saine doctrine. Donc, je crois que le fait que Luc, dans son récit, nous place Paul et Barnabas qui enseignent la parole de Dieu à Antioche dans un contexte si proche, semble nous démontrer que les deux ministères étaient différents, mais complémentaires. Ils exhortaient les prophètes, ils enseignaient les apôtres, et tous les deux ensemble, ils pouvaient construire une proclamation de la parole de Dieu qui soit complète. Un autre texte est dans le chapitre 19, verset 6. Et Paul, leur ayant imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisèrent. De qui il parle dans ce passage? Eh bien, c'est un verset qui se réfère à des disciples de Jean-Baptiste qui se convertissent tout de suite après le témoignage de l'apôtre Paul. Et c'est là que le Saint-Esprit descend sur eux et qu'ils se mettent à parler en langue et aussi à prophétiser. Nous ignorons totalement quelle langue ils ont parlé dans le passage. Je pense que Luc ne voulait pas ramener des détails ici qu'il avait déjà présentés ailleurs, auparavant, c'est-à-dire dans le chapitre 2. Et d'ailleurs, l'expérience qu'on trouve là, elle est similaire en tout point à celle des apôtres en acte 2. Je crois que c'est une des raisons pourquoi Luc ne reprend pas des détails qu'il a déjà mentionnés auparavant. Donc, sur la base des points similaires entre l'événement qui se produit ici dans acte 19 et ce qui se passe dans acte 2, je pense que ces points similaires-là nous amènent à conclure qu'ils parlaient des langues premièrement compréhensibles et qu'ils rendaient eux aussi témoignage aux œuvres magnifiques de Dieu. Donc, la prophétie de ces disciples de Jean-Baptiste convertis, c'était de rendre témoignage tout simplement. Dans d'autres langues, aux gens d'Éphèse qui étaient autour d'eux. Donc, je veux dire, tous ces détails-là sont reconstruits d'après une similarité d'événements. En fait, c'est presque le même événement qui se produit que dans Acte 2. Autrement, je n'ai aucune information directe dans le texte, mais en étant un récit, on sait que c'est une façon de faire quand un auteur d'un récit dans la Bible, il laisse des détails de côté dans un texte quand il l'a déjà abordé. Ces détails ailleurs, pour pas se répéter finalement et conserver le plus de place sur ses pages à l'époque pour pouvoir rédiger son texte. Dans Acte 21, versets 9 à 11, nous trouvons ceci. Nous lisons, « Et le lendemain, étant partis, nous vîmes à Césarée et étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept, ça c'est les sept d'Acte 6, qui ont été nommés, ceux qu'on appelle souvent les sept diacres. Nous demeurâmes chez lui. Or, il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Et comme nous nous arrêtâmes là plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de la Judée et vint nous trouver. » Donc, ce Philippe, je l'ai mentionné, était l'un des sept diacres qui avait été nommé à cette responsabilité dans Acte 6, un homme spirituel, un homme de Dieu, un évangéliste clair et net. On le voit même dans les chapitres 6 à 8, il est très actif dans l'évangélisation. Et il avait quatre filles qui n'étaient pas encore mariées et Luc nous dit qu'elles prophétisaient, mais n'explique pas leur ministère prophétique. Mais, par contre, il devait être différent de celui d'Agabus, puisque si c'était un ministère prophétique d'annoncer l'avenir, pourquoi faire venir quelqu'un d'autre quand tu as déjà quatre filles qui le font? Vous me suivez? Donc, probablement que Luc est juste en train de nous dire, c'est un ministère prophétique, mais différent de celui d'Agabus. Et puis, Agabus, c'est un cas très, très exceptionnel, on l'a vu, c'est la deuxième et dernière fois qu'il est mentionné. Et encore une fois, annonce un événement à venir qui va s'accomplir parfaitement dans les moments qui vont suivre. Mais donc, les filles, elles, on ne sait pas exactement c'était quoi leur ministère prophétique. Mais c'est pas exagéré de croire que les filles de Philippe partageaient probablement la vision ou la passion de leur père pour l'évangélisation. C'est un évangéliste, Philippe, et l'évidence biblique est forte pour nous le démontrer. Donc, c'est peut-être en ce sens qu'elles prophétisaient. Mais sinon, je n'ai aucune idée. Voilà pourquoi, honnêtement, point d'interrogation. Je ne suis pas certain, je ne sais pas. Luc ne donne aucun détail. Je sais que ce n'est pas le ministère d'Agabus, c'est différent. Et puis, à la lumière de ce qu'on a vu, le plus cohérent jusqu'à maintenant, ce serait de penser qu'elle rendait témoignage, comme Anne l'avait fait. Et puis, comme on le voit aussi avec les apôtres eux-mêmes dans Acte 2, à la lumière de ce qu'on voit aussi dans Acte 19, voilà, c'est la tendance est vers l'idée de rendre témoignage. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Luc ne place pas ces quatre filles-là dans un contexte d'église locale, ou même d'un rassemblement chrétien, ou d'un événement chrétien. Il les place dans un contexte de foyer familial. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est comme s'il est en train de nous dire que, de manière familiale, privée, ces filles-là prophétisaient. Et qu'est-ce que ça peut être? Ben, à la lumière de l'évidence biblique, je trouve que rendre témoignage, c'est le point le plus solide que nous pouvons avoir jusqu'à maintenant. Maintenant, toujours dans les Actes des apôtres, il y a un ministère prophétique... Attendez, je vais plutôt faire un résumé là. Dans les Actes des apôtres, qu'est-ce que c'est prophétiser jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu? Rendre témoignage, c'est peut-être celui qui revient le plus souvent. On le voit au moins trois fois, celui-là. Rendre témoignage, c'est probablement le plus important. Exhorter et enseigner, et les deux auraient pu être placés sur la même ligne, parce qu'ils sont rattachés ensemble constamment. Et puis, c'est à deux reprises qu'on voit ce don-là. Donc, trois fois rendre témoignage, deux reprises exhorter ou enseigner, et puis annoncer les choses à venir, deux fois aussi, mais toujours par la seule et même personne qui est Agabus. Donc, ça, c'est les Actes des apôtres. Ça ressemble un peu à des aspects qu'on a vus dans l'Ancien Testament. Donc, c'est des aspects qui reviennent. Bref, le ministère prophétique, il est assez précis et tourne autour de 4-5 éléments particuliers ou aspects particuliers. Et on va le voir à la toute fin dans un tableau encore plus clair. Puis, dans un sens, le fait que rendre témoignage, ce soit l'aspect dominant, c'est pas surprenant dans les Actes des apôtres, c'est un livre d'histoire. Les gens se convertissent puis rendent témoignage au Seigneur et Luc appelle ça prophétiser. Donc, c'est une façon, prophétiser, c'est un verbe qui veut dire communiquer la parole de Dieu. Ça peut être dans différentes formes, mais dans les Actes des apôtres, c'est surtout au niveau de raconter ce que Dieu a fait, c'est de rendre témoignage. Là, maintenant, nous arrivons dans les Épîtres. Et c'est dans les Épîtres que nous devons établir la doctrine normative pour l'Église au sujet du don de prophétie. Premier passage. Romains 12, verset 6. Or, ayant des dons de grâce différents, selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi. Ce passage-là apparaît dans un chapitre où Paul s'adresse aux chrétiens de Rome et puis leur parle du sujet des dons spirituels. C'est vraiment l'objet du chapitre 12, les dons spirituels. Tous les chrétiens, sans exception, ont au moins un don. Tous, sans exception, au moins un don spirituel. Et ici, dans ce verset-là, 6, il est question du don de prophétie et qui doit être exercé, remarquez-le, selon la proportion de la foi. Et ce bout de phrase est probablement la clé pour m'aider à comprendre quelle est la nature du don de prophétie ici. Eh bien, je crois qu'on peut dire que c'est de proclamer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que cette expression-là, selon la proportion de la foi, signifie littéralement en accord avec la saine doctrine. Le mot foi, au moins 6, 7, 8 définitions différentes dans le Nouveau Testament. Et puis, en particulier, dans plusieurs passages du Nouveau Testament, il a le sens de doctrine, de la saine doctrine, de l'enseignement des apôtres. Comme dans Jude 3, quand Jude dit qu'il faut combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et c'est donc l'enseignement des apôtres qui a été transmis au sein une fois pour toutes. Il faut combattre parce qu'il y a des faux docteurs dans Jude. Eh bien, ici aussi, la phrase « selon la proportion de la foi », le mot « proportion » est « analogia » en grec, « analogie ». Donc, il faut qu'il y ait correspondance entre le ministère prophétique et la saine doctrine. Donc, c'est de proclamer la parole de Dieu, c'est d'enseigner la parole de Dieu, c'est de communiquer la parole de Dieu, d'exhorter. Il y a tellement d'aspects différents qui peuvent entrer en ligne de compte dans cet aspect-là du ministère prophétique. Mais le passage met l'accent sur l'exercice de ce don-là dans le contexte de la relation entre les membres du corps de Christ, donc dans un contexte d'église locale. ou d'assemblée. Donc ici, il y a des croyants dans l'assemblée qui ont le don de prophétie, c'est-à-dire d'exhorter, de proclamer, d'édifier, de consoler sur la base de la parole de Dieu. Et il doit être exercé dans l'assemblée. Maintenant, ce don-là, d'une manière générale, il peut être exercé autant par des hommes que par des femmes dans l'Écriture. Le don d'enseigner la parole de Dieu, de proclamer, d'exhorter, de consoler, d'édifier, mais toujours en tenant compte de ce que la Bible dit ailleurs. Dans un contexte d'église locale réunie pour le culte et la prédication de la parole de Dieu, c'est clair que ce sont que les hommes qui doivent enseigner la parole de Dieu. Mais les sœurs peuvent aussi enseigner la parole de Dieu dans d'autres circonstances. Par exemple, l'école du dimanche ou des groupes de dames, par exemple, ou des groupes d'études maison, différents groupes qui peut y avoir. Donc, dans de tels contextes, elles peuvent certainement enseigner la parole de Dieu et proclamer la parole de Dieu, soit que ce soit pour exhorter, consoler ou édifier. Donc, dans ce contexte de Romains 12 qui parle des dons spirituels donnés à tous les membres de l'Assemblée ou de l'Église de Christ, il y a certainement place pour que ce don-là soit exercé par des hommes et des femmes, mais en tenant compte et en n'oubliant jamais ce que la Bible dit ailleurs. Sinon, on risque de créer des contradictions dans notre façon de faire. Je vais revenir sur ce point-là un petit peu plus tard. Mais l'autre texte va exactement dans le même sens. Il est très, très clair d'ailleurs. Ce serait dur de contester ce passage-là, hein? Tout homme qui prie ou qui prophétise en ayant quelque chose sur la tête déshonore sa tête, et toute femme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore sa tête. Dans ce passage-là, remarquez qu'autant l'homme que la femme prie et prophétise, tous les deux. Mais le contexte n'est pas forcément celui de l'Église locale. Moi, je pense que les réunions d'assemblée débutent dans le verset 17, dans ce chapitre-là, et pas avant. C'est mon opinion personnelle. Quoi qu'il en soit, c'est un verset qui s'inscrit dans le même cadre et le même contexte que Romains 6, c'est-à-dire un don spirituel qui peut être exercé de plusieurs manières différentes, mais toujours en accord avec la sainte doctrine et toujours en accord avec ce que la Bible dit ailleurs. Donc, si oui, la femme peut prophétiser, ce n'est certainement pas dans un contexte d'enseignement dans l'église locale quand on est réuni en tant qu'assemblée locale pour le culte ou pour la prédication. Ça, c'est clair dans 2 Timothée, dans 1 Timothée 2, c'est-à-dire que c'est le rôle de l'homme, simplement. Mais remarquez aussi que les deux verbes sont juxtaposés. Dans les deux cas, tu as l'homme, tu as la femme, qui font exactement la même chose, prier et prophétiser. Je pense que ces deux aspects-là sont complémentaires et qu'ils présentent une complémentarité dans l'expression de la foi. C'est-à-dire, comment on peut résumer l'activité chrétienne, prier, prophétiser, la relation avec Dieu, la communication de sa parole aux hommes. Il y a plusieurs contextes qu'on peut faire ça, mais c'est de façon générale que Paul parle de prier et prophétiser ici. Il met les deux ensemble, autant pour l'homme que la femme, sans faire aucune distinction de situation. Il dit simplement comment ça devrait être fait. Et là, ça c'est un autre sujet, un autre débat qu'on a déjà regardé ensemble, à savoir est-ce qu'on devrait le faire la tête couverte pour la femme ou plus maintenant, etc. Mais quoi qu'il en soit, ce que Paul enseigne, c'est clairement le privilège, le double privilège, autant que l'homme, pour l'homme que la femme, de prier et prophétiser, c'est-à-dire de communiquer la parole de Dieu dans plusieurs contextes différents, sans contradiction avec ce que la Bible dit ailleurs. Maintenant, donc ce serait proclamer la parole de Dieu à nouveau ici. C'est la façon la plus simple, je crois qu'on peut le résumer. Encore dans les Épîtres, il y a un aspect particulier du don de prophétie qui est toujours constamment lié de très près au ministère des apôtres. À chaque fois où on trouve un tel contexte, ça semble démontrer qu'il s'agit d'un aspect particulier du ministère prophétique qui a disparu avec les apôtres. Le ministère des apôtres n'existe plus. Il est terminé parce que le fondement a été posé. Christ est la pierre angulaire. Ils ont construit avec cette pierre-là, ils ont fait une fondation, si vous voulez, à l'Assemblée. Et cette fondation, elle est ici, c'est la parole de Dieu. Ils nous ont donné la parole de Dieu rédigée. Et maintenant, nous construisons dessus avec les pasteurs, docteurs, évangélistes. Mais les apôtres et prophètes ont disparu. Donc, il y a un aspect du ministère prophétique qui n'a plus sa place, qui n'existe plus dans l'Église aujourd'hui, parce que leur ministère est complété, est terminé. Voici les quatre principaux passages qui parlent de ça. 1 Corinthiens 12, verset 28. « Et Dieu a placé les uns dans l'assemblée, d'abord des apôtres, en second lieu des prophètes. » Les prophètes s'appuyaient sur ce que les apôtres avaient enseigné pour édifier, encourager, exhorter, etc. En troisième lieu, des docteurs, ensuite des miracles, puis des dons de grâce, de guérison, des aides, des gouvernements, diverses sortes de langues. C'est un passage assez compliqué, puis sans discuter sur tous les aspects que dans ce verset-là, apôtres et prophètes liés ensemble, un et deux, sont liés ensemble. Il est disparu cet aspect du ministère. Pourquoi? Parce que dans leur cas, prophétiser, c'était poser le fondement doctrinal de l'Église. Il est posé, la parole de Dieu est rédigée, c'est terminé. Mais encore, il y a trois autres versets en lien avec cela. 1 Corinthiens 13, versets 8 à 10. Or, y a-t-il des prophéties? Elles auront leur fin. Vous voyez, elles auront leur fin. Pas leur accomplissement. Ça sera fini à un moment donné, les prophéties. Y a-t-il des langues? Elles cesseront. Ça aussi, ça va finir. Ça va se terminer. Y a-t-il de la connaissance? Elle aura sa fin dans le sens où elle est entièrement communiquée. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie actuellement dans le temps de Paul. Pas aujourd'hui, dans le temps de Paul. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est en partie aura sa fin. Il y a un jeu de mots dans ce passage-là qui parle de partiel, de complet, de fini, de terminé. Et puis, nous croyons, enfin, je suis pas le seul à croire ça, mais que Paul est en train de parler ici de la révélation progressive de Dieu. Un jour, elle va arriver où elle sera entièrement communiquée. Et donc, il y a des ministères qui vont cesser. Et je crois que c'est ce qu'il enseigne dans ce passage-là. Les prophéties auront leur fin. Le troisième texte qui va dans le même sens d'un ministère prophétique dans le fondement doctrinal de l'Église, c'est Éphésiens 2:20. D'ailleurs, les deux derniers textes sont dans Éphésiens. « Ayant été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même étant la maîtresse pierre du coin. » Donc, c'est le Seigneur avec son enseignement et l'Évangile qu'il apporte et son œuvre à la croix et la rédemption. Et c'est ce que les apôtres continuent de faire par la suite, hein, puis on voit quand les évangiles et les actes, il y a le lien entre ce que Jésus a commencé de faire et ce qu'il continue de faire à travers les apôtres. Et puis, ils vont mettre le fondement et c'est terminé maintenant. Le fondement, il est bien donné, puis même la parole de Dieu entièrement appuyée là-dessus. Le dernier texte en Éphésiens 4, 11. Et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et encore ici, dans le contexte, ces personnes douées données à l'Église, c'est plus des personnes douées que des dons. Hein. C'est des personnes que Dieu prépare d'avance et qu'il met là, ici et là. Et puis, il a placé les apôtres, les prophètes pour mettre le fondement, les évangélistes, pasteurs et docteurs. On le voit partout ailleurs, ça continue. Et ils construisent sur le fondement doctrinal de l'Église. Voilà donc, pour ce qui concerne cet aspect prophétique particulier, il reste encore un passage à examiner au sujet du don prophétique dans le Nouveau Testament, et pas n'importe lequel, 1 Corinthiens 14. Ah oh oui, c'est le plus amusant, celui-là. Ça, c'est un chapitre qui nous humilie, parce qu'à toutes les fois qu'on l'étudie, on pense qu'on a compris quelque chose, puis on le remet en question deux jours après. Enfin, moi, c'est toujours comme ça. C'est un chapitre qui comporte son lot de difficultés, surtout au niveau du don de parler en langue là-dedans. On sait pas trop, est-ce que Paul est ironique, est-ce qu'il se moque pas des Corinthiens quelque part, on sait pas trop. Les Corinthiens prétendaient avoir toutes sortes de dons. Je crois que Paul, il en a comme marre à un moment donné, là. C'est bon, OK, là, vous dites ça, et puis voilà ce qui serait important, ça serait plutôt ça. Enfin, c'est difficile de savoir tout ce qui se passe dans cette assemblée de Corinthe, mais elle n'est pas facile. Par contre, pour le don de prophétie, il me semble que c'est moins compliqué. Je crois que dans tout le chapitre 14, où Paul met clairement l'accent sur le don prophétique, ça, il n'y a aucun doute. Par-dessus n'importe quel autre don, que ce soit des prétentions ou des dons réels, Paul dit aux Corinthiens, cherchez la prophétie, c'est le plus important de tous. Pourquoi? Parce qu'il est appuyé sur la proclamation de la parole de Dieu. Et proclamer la parole de Dieu d'une manière intelligente, c'est beaucoup plus que 10 000 paroles en langue. Voilà, c'est assez clair pour ce qui est du don prophétique. Et il y a trois versets qui retiennent mon attention pour comprendre ce don. C'est le verset 3, « Celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification et l'exhortation et la consolation. » C'est quoi le don prophétique? C'est ça. C'est ces trois aspects-là. C'est la proclamation de la parole de Dieu pour édifier, exhorter, consoler. L'autre verset, le verset suivant, verset 4, confirme le but même de ce ministère, celui qui prophétise, édifie l'assemblée. Et ça veut dire quoi, édifier? C'est le même verbe oikodomeo qui signifie construire. Si on bâtit une maison, on va prendre le même verbe que édifier ici, la même chose. Édifice, hein? Il y a un lien quelque part. Eh bien, édifier, c'est de construire l'Assemblée, de les aider à grandir, à se développer et puis à mieux servir le Seigneur parce qu'ils comprennent leur don. Voilà, c'est un don magnifique, le don de prophétie dans ce contexte-là. Et que les prophètes parlent, deux ou trois, que les autres jugent. Là, parlez-moi pas du repas du Seigneur, c'est pas de ça que ça parle. Je sais qu'on applique souvent ce verset-là au repas du Seigneur, la façon dont on se lève tour à tour. Ça va, c'est un bon principe, on l'applique bien. Mais dans le contexte ici, c'est plutôt de limiter là les Corinthiens qui sont dans un brouhaha, puis de l'incohérence, puis tout le monde dit plein de choses en même temps. Calmez-vous, assoyez-vous, relaxez un peu, respirez par le nez. Puis là, vous allez être 2-3, pas 52 dans la même réunion qui vont parler, et puis les autres vont juger. Voyez le point, c'est un peu ça que Paul est en train de dire avec ce verset-là. Maintenant, ce qui est très, très clair dans 1 Corinthiens 14, c'est que le contexte est un contexte d'assemblée locale. Donc, il est clair que le ministère prophétique dans 1 Corinthiens 14 s'apparente à celui de l'enseignement et doit donc être réservé aux hommes. C'est clair et net. Quand on regarde le contexte, puis on tient compte de ce que Paul dit ailleurs, comme dans 1 Timothée 2. Ceux qui partagent la responsabilité d'enseigner dans l'Assemblée, ils doivent porter attention à ce qui est dit pour s'assurer que ce soit conforme à la saine doctrine. Pourquoi les autres jugent? Pas juger si ça fait leur affaire. Juger si c'est conforme à ce que la Bible enseigne. Est-ce que c'est conforme à ce que les apôtres ont enseigné? À la saine doctrine sur laquelle on développe notre Église? Bon, il y en a qui pensent que le don de prophétie ici est le même que celui que je viens de mentionner, soit le don de prophétie lié aux apôtres et puis qui finalement est disparu, mais je pense pas que c'est nécessaire de conclure ça. Je crois que dans 1 Corinthiens 14, on peut comprendre un don prophétique large qui est la proclamation de la parole de Dieu, mais puisque c'est dans un contexte d'assemblée réservé aux hommes. Tu sais, il y a des frères qui ont ce don-là, d'édifier, d'exhorter, de consoler. Il y a des sœurs aussi qui l'ont, là, ça, il n'y a aucun doute. Mais dans un contexte d'assemblée, ça va être fait pour justement le bien des frères et sœurs de l'assemblée. C'est un don qui est complémentaire à celui d'enseigner, mais qui n'est pas le don d'enseigner. Ça, c'est les docteurs qui ont ce don-là. C'est pas exactement la même chose. Quoique ils visent un même but, édifier l'assemblée, leur faire du bien, voyez? Il y a une belle complémentarité entre le don prophétique et puis le don d'enseigner. Mais quand on parle du don de docteur ou d'enseignant, c'est celui qui consiste à exposer systématiquement les saintes Écritures. Un peu comme quand Paul il dit aux anciens d'Éphèse qu'il a tout fait pour s'assurer d'annoncer tout le conseil de Dieu. C'est sa façon de dire qu'il prêchait systématiquement par exposition de textes. C'est ça qu'on devrait comprendre. Mais le don prophétique, lui, c'est des frères qui, sans être des docteurs pour exposer la parole de Dieu, qui ont le don de partager quelque chose pour édifier, encourager, fortifier, faire du bien à l'Assemblée. Mais c'est certainement la responsabilité des docteurs dans l'Assemblée d'écouter, puis de s'assurer que c'est conforme. Et puis si le frère, ben, s'il n'est pas tout à fait juste, on ne va pas lui rentrer dedans, bang! On va le former. On va l'encourager, on va lui donner des outils. Vous voyez, il y a une belle dynamique qui peut s'installer pour que les différents dons puissent amener une édification réelle dans l'Assemblée. Voilà comment je terminerai avec un résumé. Si vous le voyez bien, les cinq aspects du don prophétique dans le Nouveau Testament, vous voyez, ça rejoint un peu ce qu'on a vu dans l'Ancien, ce qu'on a vu dans les Évangiles. Et maintenant, ce qu'on voit dans les Actes et les Épîtres, on met ça ensemble et on arrive vraiment avec cinq aspects du don prophétique. Annoncer des choses à venir, sont pas en ordre d'importance, là, vous allez voir pourquoi je les mets comme ça. Annoncer des choses à venir, rendre témoignage au Seigneur et à ses œuvres. Et ces dons-là ne sont pas forcément, ou cet aspect du don prophétique n'est pas forcément lié à la vie d'assemblée locale. Par contre, les trois derniers le sont d'une manière particulière, peuvent être aussi dans d'autres contextes, mais sont aussi liés à l'Assemblée. C'est pour ça que vous allez voir, je vais mettre des petits X pour vous dire qui fait quoi là-dedans. Rendre témoignage au Seigneur, poser les fondements doctrinaux de l'Église, encourager, c'est-à-dire, et puis là on peut aller large, très large, consoler, édifier, avertir, reprendre. En fait, c'est tout le ministère prophétique at large, en gros. Et puis finalement, enseigner la parole de Dieu. Le premier aspect, annoncer des choses à venir. On l'a dit, il est très rare dans l'Église primitive, il apparaît seulement dans un contexte exceptionnel, dans deux contextes exceptionnels, toujours avec la même personne. C'est vrai que le Seigneur, lui, dans les Évangiles et les apôtres, dans les Épîtres et l'Apocalypse, ils vont aussi abondamment exercer le don prophétique d'annoncer l'avenir. Mais Jésus le fait dans ses discours prophétiques, et ça nous est rapporté dans les Évangiles, et les apôtres, eux, le font par écrit dans les lettres. Donc, je pense à Paul avec ses épîtres aux Thessaloniciens, par exemple. Il nous projette vers l'avenir. Je pense à Jean, bien sûr, avec l'Apocalypse, où il nous projette aussi clairement dans l'avenir. Donc, selon toute vraisemblance, ce ministère ou cet aspect du don prophétique est réservé ou limité aux hommes dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que, tout simplement, je n'ai aucun exemple néo-testamentaire d'une femme qui annonce des choses à venir. Ah, peut-être qu'il y en a, puis je ne l'ai pas vu, je ne sais pas, vous viendrez me voir à la fin, puis on s'ajustera, mais il me semble que j'en ai pas vu d'autres, du moins dans l'Église, en particulier dans l'Église. Le deuxième aspect, c'est-à-dire celui de rendre témoignage au Seigneur et aussi à ses œuvres, il est dominant dans le livre des Actes des Apôtres. Mais dans les Épîtres, il disparaît un peu en toile de fond. C'est pas qu'il est plus là, qu'il n'est plus valide, mais il a moins d'importance quand on arrive dans les Épîtres. Il peut être exercé par des hommes autant que par des femmes. Cet aspect-là de rendre témoignage au Seigneur et à ses œuvres. Donc, bibliquement parlant, quand on rend témoignage, quand on prêche l'Évangile à des gens, on est en train, bibliquement parlant, de prophétiser. Parce que la Bible appelle cela prophétiser dans les contextes que nous avons vus. Le troisième aspect, il est terminé, n'a été exercé que par des hommes. Bien sûr, ce sont les apôtres. Et donc, au niveau de l'Assemblée, ils ont posé le fondement. Et donc, ce sont les apôtres et les prophètes. Donc, c'est les prophètes associés aux apôtres dont on parle ici. Nous n'avons aucun exemple de femmes qui ont exercé ce ministère dans le Nouveau Testament. Ça, c'est le troisième. Donc, le fondement avec les apôtres. Le quatrième aspect, c'est-à-dire d'encourager, exercé autant par des hommes que par des femmes. J'ai assez de passages bibliques pour m'appuyer sur une conviction là-dessus. Donc, il est clair que ça peut être exercé par des hommes, par des femmes, dans plusieurs contextes différents. On mentionnait tout à l'heure un groupe maison, une réunion particulière, je sais pas, des réunions qu'on convoque, des conférences, par exemple. Autant l'homme que la femme peuvent exercer ce type de ministère. Vous avez pu profiter du ministère prophétique de Myriam Odon il n'y a pas tellement longtemps pour les sœurs qui étaient entre elles. Par contre, dans l'Assemblée, ce sont que les hommes qui peuvent exercer le ministère prophétique parce qu'ils s'adressent à l'Assemblée et par leur exhortation, leur message d'édification, leur avertissement peut-être, par la présentation des textes bibliques, il joue un rôle qui s'apparente à celui d'enseigner. C'est pourquoi, dans un contexte comme celui-là, seulement les hommes peuvent le faire. Donc, dans l'assemblée. Et le cinquième aspect, qui est surtout présenté dans ce chapitre 14 de 1 Corinthiens, qui s'apparente beaucoup à un ministère d'enseignement dans l'Église locale, bien, à cause de ça, ne peut être exercé que par des hommes quand il est dans un contexte d'assemblée. Mais la femme peut enseigner la parole de Dieu dans d'autres contextes. Si c'est lié à l'assemblée, c'est les hommes. 1 Timothée 2 est clair là-dessus. Mais si c'est dans d'autres contextes, et il y en a plusieurs, j'en ai mentionné quelques-uns, mais il y a tellement d'occasions où ça peut arriver, puis il y a des femmes très douées pour enseigner la parole de Dieu, même beaucoup plus que plusieurs d'entre nous. C'est pas une question de comparaison, puis de dire, est-ce que le gars il est meilleur que la fille? Je pense qu'on a passé cet âge-là, de discuter comme ça. mais c'est une question de ce que le Seigneur confie comme responsabilité et les occasions qu'il place devant nous pour le servir. Bon, ça c'est ma conclusion. C'est ce à quoi j'arrive en étudiant le don de la prophétie. J'avais jamais regardé avec autant d'attention ce don-là, mais parce que j'ai reçu le mandat, je me suis dit, bon, c'est le temps. Regardons plus en détail, puis est-ce que peut-être je vais modifier certaines choses en cours de route? Probablement. Probablement que le Seigneur va m'apprendre des choses que j'ai pas vues encore, puis des choses qui vont se clarifier peut-être en cours de route. Mais je crois que là, on a un bon fondement pour démêler le don prophétique. Puis de comprendre que, oui, il peut s'exercer de différentes façons, tant et aussi longtemps qu'on reste à l'intérieur des limites de ce que la Bible nous enseigne, et puis que tout se fasse dans le bon ordre. Voilà. Alors, dans l'Assemblée, ce sont les frères qui ont cette responsabilité, et dans n'importe quel autre contexte, les sœurs peuvent également exercer ce ministère prophétique. Donc, j'aimerais terminer par la prière, puis c'est le Seigneur qui forme nos convictions dans nos cœurs. Si vous êtes intéressé soit à avoir des notes comme ça, en fait, tout ce que j'ai dit est là-dessus quelque part sur les feuilles, ou à peu près, et puis le PowerPoint aussi, je le laisse à la disposition. Claude Henry, tu pourras peut-être le donner à ceux qui le demandent. On va prier. Merci de votre attention pendant ce sprint. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Nous sommes tous ici des étudiants qui voulons nous approcher de toi avec humilité, Père, puis te prier de nous aider à discerner ce don. Puis merci, Seigneur, pour l'enseignement de ta parole. Et je crois qu'avec ce qu'on voit et ce qu'on a vu ce soir, puis ce que ta parole nous montre, on a des bases solides pour établir une façon de fonctionner, Seigneur, qui te plaise et qui soit agréable et qui soit saine. Père, aide-nous peut-être à laisser de côté toutes les choses qui sont pas claires, et puis en particulier, Seigneur, ce qui va à l'encontre de ta parole, que l'on puisse laisser ça de côté, puis s'éloigner même de ces faux prophètes d'aujourd'hui, puis Seigneur, donne-nous un esprit de discernement, et que ta parole soit vraiment au fond de notre cœur. Merci, Seigneur, de ce que nous avons pu partager cela ensemble, tous d'un même niveau, des frères et sœurs qui aiment ta parole, qui cherchent à mieux la comprendre. Et c'est ainsi que nous nous approchons de toi, Seigneur, pour que tu affermisses notre foi et nous fasses grandir vers la maturité. Encore une fois, Seigneur, nous te disons merci pour ta parole, et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.